celui dont la majesté n'a jamais été dépassée ni même égalée. Le sublime éveillé qui est dans la sphère que rien ne peut limiter. Par quelle piste le dépister, lui qui est sans trace? Celui dans lequel il n'y a plus ni convoitise ni désir. De quelle façon peut-il être dirigé? Par quelle piste le dépister, lui qui est sans trace? Les dieux eux-mêmes envient les sages, les éveillés, les vigilants, qui vivent avec délice dans la retraite du monde. Il est difficile d'obtenir de naître à l'état d'homme. Il est difficile de vivre cette vie mortelle. Il est difficile d'obtenir l'occasion d'écouter l'enseignement juste d'Amma. Difficile est l'avènement des éveillés, des Bouddhas. Abstiens-toi du mal. Cultive le bien et purifie ton mental. Tel est l'enseignement des Bouddhas. La meilleure des pratiques ascétiques est la patience qui dure. L'état nibbanesque est le plus parfait, disent les Bouddhas. N'est point un Pabaja, disciple, quiconque fait du mal aux autres. N'est point un vrai Samana, ascète, quiconque insulte autrui. Ne faire d'outrage ni de tort à personne. Pratiquer la discipline selon la loi. Être modéré dans sa nourriture. Vivre à l'écart et s'adonner à de hautes méditations. Tel est l'enseignement des Bouddhas. Même une pluie de richesse ne saurait étancher la soif des désirs, car ils sont insatiables et engendrent la douleur. Voilà ce que c'est le sage. Même les plaisirs célestes sont sans saveur pour le sage, le disciple du Bouddha, de l'éveillé suprême, ne peut se réjouir que dans l'abolition de tout désir. Poussé par la peur, bien des hommes cherchent un refuge dans la montagne ou la forêt, auprès des bois sacrés. Mais ce n'est point un sûr refuge, ce n'est point le refuge suprême. L'homme qui s'y confie ne s'affranchit pas de toutes les douleurs. Celui qui se réfugie en Bouddha, dans le Dhamma et le Sangha, ont la sagesse accomplie. Où la sagesse accomplie perçoit les quatre vérités qui sont la souffrance, l'origine de la souffrance, l'anéantissement de la souffrance et les huit sentiers qui conduisent à son anéantissement. En vérité, c'est là le seul refuge, c'est le souverain refuge. Le choisir, c'est s'affranchir de toute souffrance. L'homme sublime, le Bouddha, est difficile à rencontrer. Un tel être ne naît point fréquemment, et là où il naît, ce sage, ceux qui l'entourent sont bénis. Bénie est l'apparition des Bouddhas. Bénie la diffusion de la vraie loi. Bénie est l'unité du Sangha. Bénis sont les observances des disciples. Il n'est point de mesure au mérite de l'homme qui révère ceux qui sont dignes de révérence, c'est-à-dire un Bouddha et ses disciples, ses affranchis, ses détenteurs de la certitude, ayant surmonté tous les obstacles, ayant franchi le fleuve de la détresse et du désespoir. Il est question ici des quatre vérités et du huit sentiers, des huit sentiers qui conduisent à son anéantissement. Il y a ici le détail de cela. Les quatre nobles vérités sont la vie prise dans le sens de la vie ordinaire, de la vie dans l'ignorance et le mensonge, est indissolublement liée à la souffrance, souffrance du corps et souffrance du mental. 2. La cause de la souffrance est le désir. Causé par l'ignorance de la nature de la vie séparée. 3. Il y a un moyen d'échapper à la souffrance, de faire cesser la douleur. Et 4, cette libération est obtenue en suivant la discipline de l'octuple sentier, qui purifie peu à peu le mental de l'ignorance. La quatrième vérité est appelée la méthode contenue dans l'octuple sentier. Le noble sentier consiste dans l'entraînement en 8 stages. Des vues justes, voir les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire une vision pure, correcte et la meilleure vision. Trois signatas caractérisent l'existence. Un, la douleur. Deux, l'impermanence. Ici, il parle de l'absence d'un ego fixe. Ce n'est pas tout à fait ça. C'est d'une personnalité fixe, durable et séparée dans le faisceau psychologique. C'est plutôt le manque de continuité véritable dans la conscience personnelle. Ce qui fait, par exemple, que dans l'état ordinaire, on n'a pas le souvenir de ses existences passées et le sens d'une continuité consciente à travers toutes les existences. Alors, le premier point est de voir juste, n'est-ce pas? Et voir juste, c'est de voir ces choses-là, que la douleur est associée à l'existence ordinaire, que toute chose est impermanente, et qu'il n'y a pas de continuité dans la conscience personnelle. Alors, le numéro 2, c'est intention ou désir juste. Mais il ne faudrait pas employer le même mot de désir, parce qu'on nous dit qu'il ne faut pas de désir. C'est plutôt des aspirations, juste. Il faudrait remplacer le mot désir par aspiration. Se libérer des attachements et avoir des pensées de bienveillance pour tout ce qui existe. Être dans un état de bienveillance perpétuelle, vouloir le mieux pour tous, toujours. Troisième point, parole juste, qui ne blesse personne. Ne jamais parler inutilement et éviter scrupuleusement toute parole malveillante. Quatrièmement, conduite juste, pacifique, honnête. À tous les points de vue, pas seulement matériellement, mais moralement et mentalement. L'honnêteté mentale est une des choses les plus difficiles à obtenir. Cinquièmement, moyen d'existence juste, ne causant ni mal ni danger à aucune créature. Ça, c'est relativement facile à comprendre. Il y a des gens qui le poussent jusqu'à un extrême, qui manque de bon sens. Ce sont ceux qui se mettent un mouchoir sur la bouche pour ne pas avaler des microbes et qui se font balayer devant les pieds pour ne pas mettre le pied sur un insecte. Ça paraît être un peu excessif parce que la vie tout entière est faite de destruction telle qu'elle est actuellement, mais on pourrait dire que la compréhension de ce texte, c'est de ne pas faire de mal et de ne causer aucun danger volontairement à aucune créature, et de prendre le plus grand soin d'éviter toute possibilité de faire du mal et de mettre en danger les autres. On peut inclure nécessairement toutes les créatures vivantes et, à son point de vue personnel, si on étend cette précaution et cette bienveillance à tout ce qui est dans l'univers, c'est très favorable au développement intérieur. Effort juste. Ne pas faire des efforts inutiles pour des choses inutiles. Mais réserver toute son énergie d'effort pour surmonter l'ignorance. Et pour se libérer du mensonge. Ça, on n'en fera jamais assez. Et le septième vient confirmer le sixième. vigilance juste, avoir l'esprit actif et vigilant, ne pas vivre dans une demi-somnolence et dans une semi-inconscience qui fait qu'on se laisse aller dans l'existence et advienne que pourra. C'est ce que tout le monde fait. De temps en temps, on se réveille et on s'aperçoit qu'on a perdu son temps. Et alors, on fait un grand effort pour retomber dans l'indolence la minute suivante. Il vaut mieux quelque chose de moins véhément, mais de plus constant. Et puis, finalement, contemplation juste, pensée concentrée, sans égoïsme, sur l'essence des choses, la vérité profonde, et le but à atteindre. Que de fois on a une sorte de vide dans le courant de l'existence. Un moment inoccupé, quelques minutes, quelquefois davantage. Qu'est-ce que l'on fait? Immédiatement, on essaye de se distraire et on invente une sottise ou une autre pour passer son temps. Ça, c'est un fait général. L'homme, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, passe la majorité de son temps à essayer de ne pas s'ennuyer. Pour lui, la bête noire, c'est l'ennui, et le moyen d'échapper à l'ennui, c'est de faire des bêtises. Eh bien, il y a un moyen qui est meilleur que ça. C'est quand on a un peu de temps, que ce soit une heure ou que ce soit quelques minutes, se dire, enfin j'ai le temps de me concentrer, de me rassembler, de revivre la raison d'être de ma vie et de m'offrir à ce qui est vrai et éternel. Si on prenait soin de faire ça, chaque fois qu'on n'est pas à assez, par les circonstances extérieures, on s'apercevrait qu'on avance très vite sur le chemin. Au lieu de gaspiller son temps à bavarder, à faire des choses inutiles et à lire des choses qui rabaissent la conscience. Ça, c'est pour choisir les meilleurs. Je ne parle pas des autres imbécilités qui sont beaucoup plus graves. au lieu de chercher à s'étourdir, à faire que le temps, qui est déjà si court, devienne plus court encore. Et qu'on s'aperçoive, quand on est à la fin de sa vie, qu'on a perdu les trois quarts de sa chance. Et alors vouloir mettre les bouchées doubles, mais ça ne marche pas. Il vaut mieux être modéré, pondéré, patient, tranquille, mais ne jamais perdre l'occasion qui vous est donnée, c'est-à-dire d'utiliser pour le vrai but la minute inoccupée qui se trouve devant vous. Quand vous n'avez rien à faire, vous vous agitez, vous courez, vous allez rencontrer des amis, vous allez vous promener, tout ça c'est le mieux. Je ne veux pas parler des choses qui sont ouvertement à ne pas faire. Au lieu de quand vous avez un moment où vous n'avez rien à faire, vous vous asseyez tranquillement devant le ciel, devant la mer ou sous les arbres, suivant les possibilités que vous avez ici, on les a toutes. Et que vous essayez de réaliser une de ces choses, de comprendre pourquoi on vit et d'apprendre comment il faut vivre. De songer à ce que l'on veut faire et ce qui doit être fait. Et quel est le meilleur moyen d'échapper à l'ignorance, au mensonge et à la douleur dans laquelle on vit.